L'huile est un symbole du Saint-Esprit. Le premier message que nous avons vu ensemble, la solution, c'est l'huile. Il y a bien des réponses, bien des solutions que nous cherchons désespérément dans bien des milieux chrétiens. Cette veuve qu'est l'Église, quand elle s'est trouvée face à Élisée, elle était dans le désarroi. Le créancier menaçait jusqu'à sa propre existence, ainsi que celle de ses enfants. Et Élisée lui a montré en toute simplicité, mais avec profondeur, que la solution, c'était l'huile. Et que la bonne nouvelle, c'est que l'huile était dans la maison. L'huile avait toujours été là. Le problème, c'est que la veuve négligeait l'huile. Et la veuve que nous sommes, la veuve qu'est l'Église de Jésus-Christ, depuis que son époux Jésus lui a été enlevé, doit retrouver, impérativement retrouver, l'huile qu'elle néglige depuis si longtemps. C'était notre première méditation, notre première pensée. La deuxième chose que nous avons vue au sujet de l'huile, c'est que c'est le secret d'une vie bénie et en bénédiction. Chacun pour notre part, j'ai mis ici, nous sommes des hazers, ce qui signifie heureux, béni. Souvenez-vous, si nous savons plonger quotidiennement nos pieds dans l'huile. Nous avons vu ensemble une troisième étape la dernière fois. Nous avons parlé de cette vision de Zacharie, la vision du chandelier, la vision de l'Église. Et nous avons considéré que les uns et les autres, nous sommes tous à notre façon des Zorobabel, des rejetons. Zorobabel signifie rejeton de Babylone. Et Zorobabel, à un moment de sa vie, malgré toute sa bonne volonté, malgré tout son zèle, malgré tout son savoir, toute son expérience, malgré ses années de vie et de service avec Dieu, Zorobabel était dans une espèce de torpeur, de léthargie spirituelle. Il était dans le découragement face au manque d'engagement du peuple, face aussi à son insuffisance, à sa faiblesse, à son incapacité. Et il y a ici dans ce texte un autre secret que nous avons vu ensemble. Si nous avons vu que c'était le secret d'une vie bénie et en bénédiction, l'huile est aussi le secret de l'efficacité dans le service de Dieu et de la longévité. Il ne s'agit pas d'être efficace pour un temps, il s'agit de durer aussi. Et si nous voulons être efficaces, efficaces dans nos couples, efficaces sur nos lieux de travail, efficaces dans nos familles, efficaces dans notre église, efficaces dans nos secteurs d'activité, efficaces dans nos ministères, il faut absolument retrouver ce secret de l'efficacité et de la longévité. Garder la mèche c'est l'image du chrétien, insignifiant, vil, incapable, garder la mèche constamment trempée dans l'huile. C'est comme ça qu'il y a du feu, c'est comme ça qu'il y a de la chaleur, c'est comme ça qu'il y a de la vie, c'est comme ça que, pardonnez-moi, ça marche, quand la mèche est trempée dans l'huile. On a chanté « Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. » Amen. Si vous le pensez en toute sincérité, comprenez bien que le Seigneur a encore bien plus envie que nous de faire descendre sa gloire. C'est son cœur, c'est sa joie, c'est sa nature de Père, de Seigneur. Il veut répandre sa vie et sa gloire. Comment est-ce que la gloire de Dieu peut descendre en ce lieu parmi nous? Eh bien, ce sera la thématique de notre quatrième message aujourd'hui. L'huile sur l'unité. L'huile pour l'unité, et nous lisons simplement ensemble ce très court psaume, puisqu'il n'y a que trois versets, ce très court psaume de David, le psaume 133. Psaume 133, cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. On va parler un petit peu ce matin de cette huile que le Seigneur veut répandre sur son peuple uni, sur l'Église unie. Ici, pour vous situer un petit peu, résumer un petit peu le psaume, c'est très simple. David met en évidence la valeur de l'unité du peuple de Dieu. David met en valeur la beauté de l'unité, mais aussi toute la bénédiction qui va découler, la bénédiction qui va être la conséquence directe de l'unité réelle des enfants de Dieu, des membres du corps. Et pour ça, il prend deux images, c'est très simple, c'est le verset 2 et le verset 3. On ne peut pas faire plus simple. La première image, c'est l'huile précieuse qui est répandue sur Aaron, le sacrificateur. Et la deuxième image, c'est le verset 3, la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Je crois, frères et sœurs, aujourd'hui que l'Église en généralité a réellement besoin de retrouver le sens du mot « ensemble ». Le psaume 133, c'est un cantique des degrés. On appelle ça aussi des cantiques d'élévation, des cantiques d'ascension. Si vous avez fait attention en lisant les psaumes, entre le psaume 120 et le psaume 134, il y a 15 psaumes qui sont appelés les cantiques des degrés. Qu'est-ce que c'est que ces psaumes, ces cantiques? C'est très simple. C'était en réalité des cantiques, on les appelle d'ascension, des cantiques d'élévation, parce que c'était les chants que le peuple chantait quand il montait à la maison de Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin, non pas dans ce bâtiment, mais dans la communion du Seigneur, dans la communion des frères et des sœurs. Est-ce que vous avez bien pris la peine de vous préparer? Ou est-ce que vous êtes tombé du lit après avoir enguirlandé les enfants? Vous êtes pris la tête dans la voiture avec votre mari, votre femme, après avoir eu quelques mauvaises pensées qui vous ont effleuré. Ah, c'est encore l'autre ce matin. Ah, elle est encore là. Ah, il faut que je lui dise ça. Ah, elle m'a encore pris la tête cette semaine. Ah oui, c'est vrai, il faut que je pense, j'avais pas fait cette course-là. À l'autre, il faut que je l'appelle, il faut absolument que j'aille. Un temps de communion avec Dieu et un temps de communion fraternelle, ça se prépare. Et le peuple se préparait. Il n'arrivait pas à la rencontre du Dieu vivant n'importe comment. Et il y avait ces 15 psaumes. C'était des psaumes d'élévation, des cantiques d'ascension. Certains de ceux qui ont la Bible Semeur, vous devez avoir dans l'intitulé « Cantique ou chant pour la route ». Vous avez ça, la version Semeur, où il y en a qui disent oui. « Pour la route vers la maison de l'Éternel ». Alors voyez, sur la route, ils chantaient des cantiques, ils chantaient des psaumes. Ça m'interpelle déjà, moi, personnellement. Vous aussi, probablement. Donc, ces cantiques étaient chantés par le peuple pour monter vers la maison de Dieu. Et en chantant ces cantiques, c'était une façon pour eux de préparer leur cœur. Mais pas seulement de préparer leur cœur à rencontrer Dieu, c'était aussi le moyen de préparer leur cœur à se rencontrer les uns les autres. Quand je viens dans ce lieu, quand nous nous rassemblons, quel que soit le jour ou quelle que soit la forme de nos rassemblements, de nos réunions, non, je m'excuse, je ne viens pas pour le Seigneur. Non, c'est très incomplet. Je viens pour le Seigneur et je viens pour vous. Parce que si je venais que pour le Seigneur, ben autant que je reste chez moi, excusez-moi. Si vous êtes venu ce matin que pour le Seigneur en vous disant, de toute façon, ben lui, elle, machin, moi je suis venu pour le Seigneur, pardonnez-moi, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que Jésus. Et je ne suis pas venu pour lui seulement, en partie, mais je suis venu aussi pour vous. Vous êtes venu pour moi, vous êtes venu les uns pour les autres. David met ici en évidence la beauté de l'unité dans ce psaume de préparation avec ces deux images. La première image que on regarde ensemble rapidement, pour bien comprendre la dimension de bénédiction que Dieu veut faire couler, la première image, c'est l'huile, mais pas n'importe quelle huile. L'huile à laquelle David fait référence, c'est, alors on va pas le lire, mais je vous ai mis la référence, si vous voulez regarder ça chez vous ou le noter, Exode 30, versets 22 à 33, c'est une huile précieuse. L'huile à laquelle il fait référence, c'est une huile parfumée, une huile qui est une odeur agréable aux narines de l'Éternel. Et cette huile, c'est pas n'importe quelle huile. Elle est parfumée, elle est d'une odeur agréable à l'Éternel, et cette huile, elle était réservée aux sacrificateurs. On ne faisait pas n'importe quoi avec cette huile parfumée, cette huile qui avait été sélectionnée et parfumée avec le plus grand art, avec les plus grands soins. Elle était réservée aux sacrificateurs. Mais les sacrificateurs aujourd'hui, eh ben c'est nous. Et David est ici de nous, en train de nous dire d'une certaine façon, à venir, d'une façon prophétique, d'une certaine façon, il nous dit d'une façon prophétique, il y a une huile parfumée, une odeur agréable à l'Éternel, une huile qui est sainte, qui est excellente, qui est belle, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est réservé au sacrificateur. Et je vous ai mis la référence du Nouveau Testament, Apocalypse 1:5, à celui qui nous aime, qui a fait de nous un peuple, un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs pour Dieu le Père. Frères et sœurs, quand nous venons dans une réunion, quelle qu'elle soit, quel que soit le jour, quelle que soit sa forme, prenons conscience que nous sommes des sacrificateurs. Je ne suis pas spectateur. Je ne suis pas adhérent de l'église évangélique rue des Ponts à Manosque. Je suis pas spectateur de ce qui se passe. Je viens avec un cœur de sacrificateur. Et le premier sacrifice que Dieu veut que je lui offre, c'est moi. Le premier sacrifice, c'est moi. C'est mon cœur, mon corps, ma vie offerte tout entier sur son autel. J'apporte un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de louange, un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice d'adoration. Nous apportons à Dieu en tant que sacrificateur des victimes spirituelles. Mais la première de ces victimes spirituelles, le premier de ces sacrifices, c'est ma vie. Et lorsque ma vie, c'est la première application, l'huile était aussi un symbole de consécration. L'huile était répandue sur celui qui était authentiquement consacré. Et cette huile était un signe d'approbation de Dieu sur cette personne et aussi un signe de bénédiction. C'est la même chose si on prend la symbolique du feu. Vous faites bien attention dans l'écriture, le feu descendait quand il y avait un sacrifice. Le feu était une marque d'approbation divine. À la Pentecôte, le feu descend, c'est une marque d'approbation divine, une bénédiction, une approbation sur la consécration et sur l'offrande de ceux qui sont là. L'huile est un symbole de consécration, d'approbation de Dieu sur le sacrificateur que je suis et de bénédiction. Ce qui m'a interpellé, ça c'est pas marqué dans le texte, mais ce qui m'a interpellé dans le côté historique, c'est qu'il n'y avait pas quelques gouttes. Souvent, on pense à notre onction d'huile moderne à nous, que l'on pratique très souvent dans des mauvais contextes. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une étude sur l'onction d'huile. Et avec deux, trois gouttes, on met deux, trois gouttes d'huile et on fait une prière. C'était pas quelques gouttes. L'huile, d'après les théologiens, tous les théologiens s'accordent pour dire que l'huile qui était répandue, c'était au moins 20 ou 22 litres. Ah oui. Ah ben, je peux vous dire qu'après, il était bien huilé, hein, quand même, hein. Ah, il était bien gras, hein, ça, c'est sûr que Aaron, avec 20 litres d'huile sur lui, c'est pas avec quelques gouttes que ça pouvait imbiber sa barbe, de sa barbe ses vêtements, et toucher toutes les parties de son corps et toutes les parties de son vêtement. C'est impossible. Il fallait qu'il y ait abondance d'huile. Et il y avait au moins 20, voire 22 litres qui étaient déversés comme ça. Et c'était vraiment une huile abondante qui coulait sur le sacrificateur. Cette huile nous parle aussi d'abondance, de l'abondance de l'esprit sur nous. Alors, il y a une mesure d'huile pour le sacrificateur que je suis. Dieu n'a pas envie que tu vives avec des gouttes, parce qu'avec trois gouttes d'huile, il va y avoir beaucoup d'accrochages dans ton couple, hein. Trois gouttes d'huile chacun, si les parties sont pas plus huilées que ça, il va y avoir des étincelles. Et c'est pareil dans l'église, c'est pareil dans les relations, c'est pareil à tous les niveaux. Non, c'est volontaire. Il y avait une abondance d'huile. Mais s'il y avait déjà tout cet aspect, s'il y avait déjà tout cela pour le sacrificateur, David, lui, dans la pensée, il va encore beaucoup plus loin, puisqu'il dit il y a encore une mesure supérieure, il y a une mesure particulière pour, non pas le sacrificateur, je vous ai mis ici, pour le royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire pour le peuple uni, pour les frères qui savent demeurer ensemble. On va regarder tout ça. Mais l'huile, il faut le comprendre, elle doit toucher me concernant ma vie, l'huile, elle doit toucher chaque partie de mon corps, chaque partie de mon être, chaque partie de mon existence. Et dans le corps miraculeux spirituel qu'est l'Église, l'huile doit aussi toucher et atteindre, inonder, imbiber, imprégner chaque partie du corps, chaque partie. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur ne déversera jamais une huile abondante si nous n'avons pas une authentique vie de consécration. L'huile de l'Esprit ne sera jamais déversée sur des adhérents qui ont une carte d'association cultuelle. L'huile de l'Esprit, ne peut pas être déversée sur des spectateurs, sur des gens qui regardent ça. Je suis là, mais même si je suis là physiquement, on va voir de loin. L'huile de l'Esprit ne peut être déversée que sur des sacrificateurs, sur ceux qui sont authentiquement consacrés. Souvent, on prie et on le chante et on a raison de le faire. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, viens, souffle, remplis, brûle, déverse que ton huile. Il y a des chants qui sont magnifiques sur ce sujet. On veut de l'huile. Mais souvenez-vous le premier message. Il n'y a pas de vase. Il n'y avait pas de vase vide. Donc l'huile ne pouvait pas couler. Elle ne pouvait pas se multiplier. Il fallait des vases. On veut de la bénédiction, on veut de la nourriture excellente, mais il n'y a pas de hasard, heureux, bénis, qui savent plonger leurs pieds dans l'huile, pour ensuite laisser des traces bénies partout où ils passent. On voudrait aussi, c'était le troisième message, souvenez-vous, tous ces textes nous disent à peu près la même chose avec quelques points de richesse supplémentaire ou des éclairages particuliers, mais on veut de la lumière. On veut de la chaleur, on veut de l'efficacité, on veut de la longévité, on veut la vie. S'il n'y a pas de mèche trempée dans l'huile, il n'y aura jamais, l'huile ne pouvant pas passer, il n'y aura pas de feu, il n'y aura pas de chaleur. Il faut des mèches, et pas des mèches n'importe comment, des mèches trempées dans l'huile. Et ici, c'est la même chose. On veut le feu, on veut l'huile, mais tant qu'il n'y aura pas de sacrifice, le sacrifice de ma vie sur l'autel, il n'y aura pas de feu. Il n'y aura pas cette huile abondante, cette huile de bénédiction, parce qu'elle est réservée aux sacrificateurs que nous devons être. Et là, le texte va encore plus loin. Dans la pensée de David, ce n'est pas suffisant. L'image d'Aaron en tant que sacrificateur, ok, c'est pour nous individuellement, mais ça va être aussi une image collective. Il y a une mesure particulière pour le peuple uni, pour le royaume, un seul royaume, de sacrificateur. Le texte dit bien au verset 3, c'est là. Le Seigneur a choisi un endroit particulier pour déverser une bénédiction particulière. Et cette bénédiction particulière est déversée sur son peuple uni. Il y a une mesure d'huile pour le peuple, pour le royaume, pour le corps, l'unité, être ensemble, c'est comme l'huile la meilleure, c'est une odeur agréable à Dieu. L'unité, il faudra toujours s'en souvenir, frères et sœurs, régulièrement, dans différentes thématiques, je serai toujours amené à le dire, c'est incontournable, l'unité, c'est la nature de Dieu. Dieu est un, en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais il n'y a pas de divergence, de contingent, de distance ou de méfiance entre le Fils et l'Esprit. Dieu est un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parfaitement un. Et il n'y a aucune divergence entre le Père, le Fils et l'Esprit. Dieu est un, c'est sa nature. Au même titre que Dieu est saint. Dieu est bon, Dieu est patient. Dieu est miséricordieux, mettez tous les attributs de Dieu. La nature de Dieu, c'est aussi l'unité. Et ça, c'est une condition indispensable de bénédiction. Si c'est vrai, je suis d'accord avec beaucoup de chrétiens qui me disent « Mais est-ce que je peux pas être béni chez moi ?» Oui, tu peux être béni chez toi, dans ta communion avec Dieu, tu peux vivre, expérimenter des choses. Dans une certaine mesure. La Bible est très claire sur le fait que la pleine bénédiction n'est valable et relâchée que sur le corps uni. On va parler un petit peu plus après du mot ensemble et du mot uni. Alors vous pouvez vivre une vie de consécration envers Dieu. Vous pouvez dire, oui, je me suis donné à Dieu, je vis avec lui, j'ai ma communion avec lui, j'ai été mis à part pour Dieu de façon personnelle, individuelle, j'ai des bénédictions, oui, il y en a, certes, mais si je peux vivre toutes sortes de choses dans ma communion avec Dieu, il y aura toujours, dans le rassemblement du peuple uni, il y aura toujours une dimension de joie particulière dans le cœur de Dieu. Vous êtes sa joie, vous faites sa joie, du moment que vous croyez, que vous l'aimez, que vous vous attachez à lui, que vous marchez avec lui, que vous lui faites pleinement confiance, vous lui obéissez, vous faites sa joie. Mais il y aura toujours une dimension de joie particulière, une approbation, une bénédiction, une onction pour le corps qu'est l'Église. Il y a différents membres, nous sommes tous des membres différents, mais il y a un seul corps. Il y a différents sacrificateurs, mais il y a un seul royaume. Pierre dit, vous êtes, vous le peuple de Dieu, vous êtes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, vous êtes un sacerdoce, vous êtes un sacerdoce royal. Bénédiction particulière pour le corps qui est uni. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Le mot envoie traduit l'hébreu tsava, qui signifie accorder, mais aussi ordonner. Vous avez peut-être dans vos versions de Bible, ordonner, commander. Lorsque le peuple est vraiment un, quand il est assemblé, uni, et qu'il est vraiment un, c'est là que l'Éternel commande, il ordonne qu'une bénédiction spéciale vienne. Il commande, il ordonne, parce que l'unité fait partie des exigences de Dieu. C'est pas une option. Quand vous achetez une voiture, vous prenez les options que vous voulez. Mais quand vous êtes chrétien, vous prenez pas les options que vous voulez. Dieu a des exigences. Et il peut, il est saint, il est parfait. Et c'est toujours en vue d'une grande bénédiction. Donc il peut se permettre d'être exigeant. Ensuite, sur ceux qui sont ensemble. Tiens, dans le texte original, ça m'a interpellé. Ensemble traduit le mot yakad. Et il s'agit pas d'être ensemble au sens où on est tous venus dans le même bâtiment. Parce qu'on peut être dans le même bâtiment, mais pas ensemble. Pas un, pas uni, pas un de cœur. On peut être physiquement dans le même bâtiment. Et ici, David dit bien qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Yakad, c'est-à-dire qu'ils sont bien liés l'un à l'autre. Allez, c'est pas méchant, mais il faut parler des réalités spirituelles. Dans une certaine mesure, le Seigneur ne s'intéresse pas, il ne regarde pas le fait que moi ou vous, nous soyons dans ce lieu ce matin. Ce que le Seigneur regarde et ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que les membres soient bien liés les uns aux autres. Unis, quoi. Bien liés les uns aux autres. De la même façon que, heureusement, que quand vous êtes venus ce matin, vous avez emmené tout votre corps. Et que les membres de votre corps sont tous bien liés. Mais c'est ça, c'est l'image. Vos membres sont bien liés les uns aux autres. Parce que si un dimanche matin, il y en a un qui arrive, il est comme ça, ah ben, ça va frère? Oui, ça va, j'ai oublié mon bras à la maison, mais c'est pas grave, il est monté en kit. Il me sert une fois de temps en temps, je l'accroche, je le remettrai en rentrant ce midi. Non, c'est pas possible, c'est inconcevable, c'est impensable. Les membres du corps sont bien liés entre eux. Corps se déplace ensemble, je suis venu avec tout mon corps, même les parties qui sont pas belles dans mon corps, elles sont là, même les parties qui sont pas en forme dans mon corps en ce moment, même les parties qui me posent problème, mais j'ai mal au dos, ben oui, mais j'ai quand même pas laissé mon dos à la maison, mon dos il est pénible, comme des fois il y a des frères ou des sœurs, ou moi je peux être pénible, et oui, mais j'ai quand même emmené mon dos, j'emmène tout mon corps, même les parties malades, même les parties affaiblies, même les parties têtues, même les parties difficiles, même les parties qui me font souffrir, même les parties qui me blessent, même les parties qui me rappellent que je suis incapable, et que. Bien liés les uns les autres, ensemble. Dans le livre des Actes, vous savez, ils n'étaient pas, avant la Pentecôte, avant cette effusion bénie de feu, d'huile, ils n'étaient pas, dit le texte d'Acte 2, ils n'étaient pas tous dans le même lieu. Tous dans le même lieu, c'est facile. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et c'est pas pareil. Et si vous faites attention, dans les Actes des Apôtres, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ils étaient tous ensemble assidus au temple. C'est pas le tout d'être assidu à l'église, aux réunions, ou je ne sais quoi. Oui, je peux être assidu, ben c'est déjà bien. Non, non, les Actes me montrent que le peuple, l'église primitive, les disciples étaient tous ensemble assidus au temple. Acte 4, la multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme. Une multitude, et qu'on soit 10, 100, 1000, 5000, 10 000, ça change rien, c'est pas ça le problème. La multitude, peu importe combien ils sont, la multitude était un cœur et une âme. Ah ben là, ça va tout seul, hein. Un cœur et une âme. Parfois, je viens dans le bâtiment, avec mes soucis, mes pensées, mes charges, les fardeaux pour l'église, et je me dis, mais mince, aujourd'hui dans la réunion, j'ai peut-être perdu de vue l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'était que, avec vous, je sois un cœur et une âme. Et que je ne vienne pas dans le bâtiment, mais, voyez, sans réaliser le sens profond de l'église. Très souvent, on vient, on ne réalise pas le sens profond de l'église. On prend la Sainte Cène, c'est pour ça que j'ai voulu faire le message avant. Que peut-être ça puisse plus imprégner nos esprits. Et que pendant le temps de la Cène, on puisse réaliser la valeur de l'unité, la beauté et la valeur du corps. Et Paul dit, nous sommes membres les uns des autres. Pour les frères qui sont ensemble et qui demeurent. Ici, c'est intéressant aussi. Le verbe, c'est yashab, qui signifie littéralement demeurer, au sens de siéger, rester. J'aime bien aussi ça. S'installer. Oh! Ce qui m'a marqué. Psaume 22. L'Éternel siège. Yashab, c'est le même verbe. Là où nous siégeons, où nous demeurons, où nous nous installons, unis ensemble, et que nous louons Dieu, pas de le louer de façon chacun pour soi et puis l'autre... Non, non, que nous le louons aussi dans un esprit d'unité, ceux qui demeurent, Yashab, le psaume 22 dit, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple, Yashab. Retrouver la réalité, la puissance du mot ensemble, qu'il est agréable, tobé. C'est comme l'huile précieuse, tobé. En vérité, c'est le même mot qui désigne ce qui a une grande valeur, ce qui est meilleur, ce qui est excellent. Il y a du bon dans ma communion avec Dieu. Mais quand on est un ensemble, en communion avec Dieu, c'est une valeur supérieure, c'est meilleur, c'est excellent. Et Dieu, nécessairement, se plaît. Il s'installe au milieu des louanges de son peuple, je vous l'ai mis ici, uni. Et à ce moment-là, Dieu va pouvoir donner la pleine mesure de ce qu'il est. Il est honoré, il est réjoui, il veut envoyer son approbation. Donc comment l'approbation va se manifester? Par un feu abondant, des eaux abondantes, une huile déversée en abondance, pas quelques gouttes, et l'huile de l'esprit peut se répandre, et se répandre sur toutes les parties du corps, de la même façon que l'huile se répandait sur la barbe et sur toutes les parties du corps et du vêtement d'Aaron. L'huile de l'esprit peut se répandre au milieu de nous. Elle nous fait du bien, elle nous rafraîchit, elle nous guérit, d'abord intérieurement, elle guérit nos cœurs de nos blessures, elle guérit nos corps, elle nous relève, elle nous fortifie, elle nous comble, elle nous remplit. J'ai mis différents termes, vous pourriez en mettre bien d'autres, mais... Frères et sœurs, souvent, on se dit, on se demande, on se pose pas les vraies questions. On se dit, ah, comment ça se fait que des fois les réunions c'est lourd, que des fois il n'y a pas plus de présence de Dieu, qu'il n'y a pas plus de son action, comment est-ce qu'on peut venir aussi souvent à des réunions et en repartir comme on est venu, ou même si on s'est fait un petit peu de bien, mais en vérité on va pas franchement mieux. Comment c'est possible? Comment ça se fait? Dieu n'est-il pas un Dieu de miracles? Et là on se dit, où sont les miracles?
Où est l'action de Dieu dans nos rassemblements, dans nos rendez-vous, dans nos réunions? Où est l'action de Dieu? Mais frères et sœurs, au lieu de se demander où est l'action de Dieu, on devrait bien souvent se demander où est notre compréhension et notre application du psaume 133. Où est la véritable unité de l'Église? Et s'il y a des bénédictions que nous avons perdues, c'est parce qu'il y a une dimension de corps, d'identité, d'appartenance que nous avons perdu. S'il y a des bénédictions que nous avons perdues, c'est parce qu'il y a une dimension de corps, d'identité, d'appartenance que nous avons perdue. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction sur son peuple uni. Oui, je sais. Je sais qu'il y a des problèmes dans les églises. Je sais. Il y a des problèmes dans les églises. Oui, je sais. On a été déçus dans les églises. Oui, je sais. Moi aussi, j'ai été déçu. On a été blessés dans les églises. Oui, je sais. Mais l'église, elle est faite de gens imparfaits. Jésus savait qu'il y aurait des problèmes dans son église. Elle n'était même pas constituée quand Matthieu 16, il est déjà en train de parler de discipline dans l'église à ses disciples. Jésus savait qu'il y aurait des problèmes dans les églises. C'est pour ça qu'il y a eu autant d'épîtres qui sont adressés à des églises locales. Dans l'Apocalypse, Jésus s'adresse à des églises locales. La volonté de Dieu, c'est l'église locale. Oui, il y a des gens imparfaits. Oui, j'ai pris des coups. Oui, on m'a pas compris. Oui, on m'a parfois ignoré. Oui, on m'a parfois mal parlé. Oui, mais la volonté de Dieu reste et restera toujours l'église. Dieu ne traite pas, pardonnez-moi, regardez bien la Bible. Dieu ne traite pas avec des individus. Dieu traite avec des communautés. Le peuple sorti d'Égypte est un peuple et il est organisé en 12 tribus. Dieu est le Dieu de l'unité, de la structure. Il n'est pas le Dieu des électrons libres, des francs-tireurs. Je ne suis pas un Robinson Crusoé dans mon coin. Pardon, du coup, j'ai un cœur de dire ça. Mais Dieu traite avec des communautés qui sont imparfaites. Oui, je sais. J'ai aussi souffert dans les églises. Maintenant, je vais vous dire, sans méchanceté, il n'y a que deux catégories de chrétiens. Et il faut savoir à laquelle on appartient. Il n'y a que deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui, lorsqu'ils ont été déçus, se retirent, soit physiquement, ou on peut être là physiquement, mais intérieurement, on est sérieusement en retrait. Il y a ceux qui se retirent et qui vont trouver toutes sortes d'arguments légitimes. Oui, ce qu'on t'a fait, on te l'a vraiment fait. Et il y a tous ceux qui sont en retrait. Et puis il y a ceux qui, excusez-moi, ne vont pas quitter le navire, mais qui vont se retrousser les manches. Et qui vont dire, Seigneur, oui, j'ai souffert dans ton église. Oui, parfois ton église te fait souffrir, toi. Oui, parfois moi, je fais souffrir l'église. Oui, ton église, elle est imparfaite. Seigneur, me voici. Remplis-moi de ton huile. Et permets-moi d'apporter à ton église ce qu'il lui manque. C'est pas méchant, frères et sœurs. Merci, ce amen, il était spontané. C'est pas méchant, vous avez bien compris. Mais lorsque je suis confronté à mes frères et sœurs et que j'ai des blessures, il y a des choses qui ne vont pas, j'insiste. Tout ça me révèle ce que je suis ou ce que je ne suis pas. Ça me révèle pas seulement ce qui manque à l'église, ça me révèle ce que je ne suis pas. Je vais ensuite, comme Azer, plonger mes pieds dans l'huile. Je vais, comme Zorobabel, plonger ma mèche dans l'huile. Je dis, Seigneur, remplis-moi de ton huile, de sorte que je puisse apporter à ton église ce qui lui manque. Il n'y a pas de formule magique, ça n'a rien de magique. Ça, c'est pas un miracle comme ça qui tombe du ciel. C'est un choix, frères et sœurs. C'est un choix personnel de savoir qui nous voulons être, ce que nous voulons, et si nous voulons que Dieu nous remplisse de son huile pour pouvoir bénir les autres. Parce que si je suis béni, si je suis arrosé, comme dit David, je suis arrosé, psaume 92, d'une huile fraîche, mais c'est pas seulement pour moi. Si je suis arrosé d'huile, c'est pour vous. De sorte que lorsqu'on est en contact les uns des autres, si on est bien huilé, ça glisse tout seul dans les relations. Et pourquoi ça grippe dans l'église? Mais parce que on manque d'huile, on n'est pas assez plongé dans l'huile. Mais mardi soir, dimanche prochain, viens rempli d'huile et frotte-toi à quelqu'un qui est rempli d'huile. C'est agréable les gens qui sont remplis d'huile, ça baigne dans l'huile. Ça glisse, ça va tout seul. La démission, je vous le dis, frères et sœurs, la démission, qu'elle soit physique ou juste spirituelle, la démission n'est pas une solution. On appauvrit encore plus l'Église et on s'appauvrit encore plus. On se met en danger, on devient de plus en plus vulnérable. Parce que si l'Église, elle est imparfaite, il y a quand même une bénédiction particulière sur l'Église. Il y a une force qui est là, il y a une mesure de protection. Oui, tous ces gens qui sont imparfaits autour de toi, Dieu s'en sert comme une mesure de protection. Dans le troupeau, tu es plus fort. Blessé seul, là où tu es, sans pardon, sans huile, tu ne seras pas guéri. Et puis tu n'avanceras pas, il ne se passera rien. Tu seras vulnérable. La volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est pas pour nous embêter. Jésus a voulu l'Église locale. Et c'est pas pour nous embêter, c'est pour notre bien. Amen. On va terminer avec cette deuxième image, mais qui est en vérité très simple. Cette bénédiction du mont Hermon. C'est la deuxième image que David emploie pour mettre en valeur la beauté de l'unité et la bénédiction qui en découle. Alors ce qui est intéressant, là encore, il faut juste gratter un petit peu le texte. Hermon, ça signifie sanctuaire, montagne sacrée. David dit, oh qu'il est doux, qu'il est agréable, précieux, pour des frères de demeurer, Yachab, ensemble, bien liés les uns aux autres, c'est là que l'Éternel va envoyer la bénédiction, c'est là qu'il va y avoir comme cette rosée de l'Hermon. Le mont Hermon signifie montagne sacrée. Comme par hasard, c'est le plus haut sommet en Israël. Si vous regardez une carte, le mont Hermon se trouve au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. Et sa rosée, effectivement, c'est pas juste une métaphore, c'est vraiment un fait naturel, hein. Ce mont Hermon culmine à 2800, 2900 mètres, enfin on n'est pas loin des 3000 mètres. Il y a de la neige quasiment toute l'année, ou presque. Vous pouvez regarder les photos sur Internet, hein, il y a des gens qui font du ski sur le mont Hermon. Et ce qui est extraordinaire, c'est sa position. C'est un lieu qui est vraiment chargé d'humidité. Et du mont Hermon, il va y avoir une rosée qui va venir et qui va descendre et irriguer les monts, les collines, les montagnes qui sont plus en deçà, notamment celle de Sion. Et comme par hasard, Sion, ça signifie lieu desséché. Il y a, frères et sœurs, dans nos cœurs, dans nos vies, des parties desséchées. C'est l'usure de la vie, ce sont les combats, ce sont les blessures, ce sont les déceptions. Il y a certaines parties de ta vie que Dieu ne restaurera, ne désaltérera que dans ta communion avec lui. Je peux pas vivre que de la communion de l'Église. J'ai besoin d'avoir une communion personnelle avec lui. Mes pieds à moi trempés dans l'huile. Ma mèche à moi trempée dans l'huile. Mais il y a aussi d'autres bénédictions, d'autres restaurations, d'autres rafraîchissements que Dieu va faire descendre de sa montagne sacrée, de son sanctuaire, sur toi, seulement si tu acceptes de rentrer dans la vision, dans le plan de Dieu, qui s'appelle l'unité du corps de Christ, l'unité de son Église. Les eaux bienfaisantes, cette rosée rafraîchissante qui viennent du sanctuaire même de Dieu, ne pourront se répandre sur l'Église que sur l'Église, que sur l'Église, qui retrouve la véritable unité. La vraie unité permettra au Saint-Esprit de sortir l'Église de sa sécheresse et de sa stérilité. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer bien liés les uns aux autres, ensemble. C'est comme l'huile, c'est comme la rosée. C'est là que l'Éternel a commandé qu'il y aurait une bénédiction sans précédent. Qu'il vous bénisse. Amen.